immobilier et bâtiment durable, vous donnez un temps d'avance avec l'École des Ponts. Une émission présentée par Benjamin Huin et Frédéric Musselin sur Bâti Radio.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre émission mensuelle Immobilier et bâtiment durable, vous donnez un temps d'avance avec l'École des Ponts. Alors je vous rappelle que votre émission est réalisée en partenariat avec le Master Immobilier Bâtiment Durable Transition Carbone Énergétique et Numérique de l'École des Ponts Paris-Tech. Je vous rappelle également le principe de cette émission qui est de vous préparer, de vous former, vous, actrices et acteurs de la chaîne de valeur de la filière immobilier et bâtiment, afin que vous soyez prêts aux enjeux actuels et futurs du développement durable. Alors, comme chaque mois, nous allons nous intéresser aux sujets développés durant la semaine de cours du master qui se déroule actuellement. La question aujourd'hui est la suivante. Stratégie et gestion de parc immobilier, quels sont les défis? Alors aujourd'hui, elle est posée en présence d'éminents spécialistes, comme par exemple Gilles Chamignon, qui est directeur général délégué, Sébastien Ilouz, responsable investissement efficacité énergétique, ainsi qu'en fin d'émission, nous aurons le plaisir d'accueillir un ancien diplômé du master, promo 2020, en la personne de Laurent Masson, qui est directeur opérationnel chez Proge, une société qui effectue de l'assistance à maîtrise d'ouvrage auprès du secteur du logement locatif social et du secteur privé sur les sujets de la rénovation thermique des copropriétés. Alors, Gilles Chamignon, bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour Benjamin, merci.
Donc, vous êtes directeur général délégué chez Groupe Constructa, qui est une plateforme de services immobiliers qui compte plusieurs activités comme la promotion immobilière, la commercialisation de logements en VFA, et vous avez la responsabilité de deux autres secteurs, à savoir la gestion de fonds et aussi l'investissement, l'asset management et le property management pour le compte de fonds étrangers ainsi que de clients français. Vous avez participé à l'écriture du livre du master immobilier bâtiment durable « Réussir la transition carbone et numérique » aux éditions Erol, qui a été co-dirigé, bien sûr, avec Dominique Naert, le directeur de notre master. Vous êtes également co-responsable de la semaine de cours du master, dont le thème est donc la stratégie de la gestion durable d'un parc tertiaire existant. Gilles Chamignon, est-ce que la stratégie de gestion durable d'un parc tertiaire existant est une nouvelle discipline dans l'écosystème immobilier? Quelle est sa raison d'être?
Alors, dans la notion de gestion durable d'un parc tertiaire, il y a plusieurs éléments importants qui font que cette notion, elle est relativement récente par rapport au métier de l'immobilier, puisqu'elle est effectivement très liée à l'apparition du Grenelle de l'environnement en 2008-2009 et à l'ensemble de la prise de conscience qu'on a eue dans nos métiers de gestion d'immobilier existant à partir de cette date. En fait, au niveau de l'immobilier neuf, les réglementations thermiques à la fin des années 80 ont commencé à changer les modes de production des immeubles. Par contre, au niveau de la gestion des actifs, il a fallu effectivement attendre le Grenelle et l'ensemble des groupes de réflexion qui se sont mis en place au niveau de notre profession avec les premières lois Grenelle pour s'intéresser à la gestion d'un parc tertiaire et à la responsabilité que nous portons au niveau notamment de l'émission des gaz à effet de serre, puisqu'on dit habituellement que le bâtiment au sens large est responsable de 30% des émissions de gaz à effet de serre.
Très bien, je pense que vous faites référence notamment au fameux décret tertiaire que beaucoup de maîtres d'ouvrage dans l'immobilier tertiaire sont actuellement en train d'explorer. Justement,
Ça c'est notre activité, notre actualité, effectivement.
Alors justement, j'imagine que tout cela est nouveau, comme vous l'avez précisé, et qui dit nouveauté dit peut-être difficulté pour pouvoir mettre en place cette stratégie qui est assez récente. Difficulté pour vos clients, difficulté peut-être pour vous, pour vos pairs. Est-ce que vous pouvez peut-être nous préciser ce contexte-là?
Alors, en fait, oui. Comme je vous le disais, la prise de conscience, elle date de 2008-2009, mais les premiers outils qui ont été mis en place et les premières contraintes réglementaires sont ultérieures. Aujourd'hui, on est effectivement face à une difficulté entre guillemets opérationnelle qui nous est imposée par le décret tertiaire, qui est la collecte des données de consommation d'énergie des immeubles. Donc, aujourd'hui, on est passé en phase opérationnelle, si j'ose dire. Après une longue phase de réflexion et de d'élaboration de différents règlements, aujourd'hui, on est en phase opérationnelle avec des difficultés opérationnelles. Pour tous les actifs de plus de 1000 m², nous devons collecter les informations relatives aux consommations depuis au moins 3 ans et éventuellement même en remontant jusqu'à 2010. Donc oui, on est effectivement sur des difficultés, mais qui sont des difficultés d'ordre opérationnel. Je pense que le message concernant la nécessité d'améliorer la performance de nos bâtiments, il est maintenant parfaitement passé au sein de la profession et il est parfaitement intégré dans les actions quotidiennes que nous menons.
Très bien. J'ai une question, si on pouvait parler un peu d'avenir. On voit qu'aujourd'hui, pour revenir au décret tertiaire, on voit que ce sont essentiellement des paramètres énergétiques qui sont pris en compte. Peut-être qu'à l'avenir, il y aura des paramètres supplémentaires qui viendront s'additionner. On voit déjà un peu l'émergence de paramètres d'ordre environnementaux, d'ordre sociétaux. Comment vous voyez la stratégie de demain de gestion durable d'un parc tertiaire, justement pour accompagner l'évolution du parc immobilier de demain ?
Alors oui, c'est vrai que les réflexions et les textes de loi se sont d'abord posés sur la partie consommation d'énergie parce que c'est la partie visible de l'iceberg. Elle est, on peut la mesurer et on a là-dessus des objectifs de réduction qui sont assez précis à atteindre. C'est notre présent. L'avenir, c'est d'aller plus loin, c'est de s'intéresser à d'autres éléments, à l'eau, à l'air. Le décret tertiaire nous amène déjà aujourd'hui à intégrer ces éléments dans nos réflexions, de même que la gestion des déchets. Donc, on va aller au-delà de la gestion de l'énergie pour effectivement aller sur des éléments qui sont plus larges dans le fonctionnement du bâtiment. C'est déjà aujourd'hui dans nos réflexions et dans nos actions. L'étape suivante, ça sera de s'intéresser à ce qui entoure le bâtiment, c'est-à-dire dépasser le simple fonctionnement de nos immeubles pour s'intéresser à la biodiversité, à l'impact de nos immeubles sur l'environnement immédiat, que ce soit en termes de confort visuel, que ce soit en termes de confort, d'intégration dans les paysages. Ça c'est une étape supplémentaire que nous allons devoir travailler dans la durée.
Oui, j'imagine toujours dans une logique de recherche forcément de rentabilité permanente.
Alors, bien évidemment, notre métier, c'est de gérer des immeubles. Gérer des immeubles, ça veut dire d'un côté assurer la satisfaction de l'occupant, du locataire, lui délivrer des locaux qui sont en bon état de marche et qui sont performants d'un point de vue environnemental, parce que c'est maintenant sa demande, notamment des grands groupes qui ont une obligation de reporting environnemental. Mais c'est aussi, de l'autre côté de la chaîne, assurer un rendement pour l'investisseur. L'investisseur, ça peut être un institutionnel, ça peut être de l'épargne privée à travers des SCPI. Et effectivement, l'investissement immobilier, il est réalisé avec un espoir de rendement. Alors, il est clair qu'aujourd'hui, dans nos analyses, lorsque nous achetons, lorsque nous gérons un patrimoine immobilier, nous intégrons les éléments relatifs aux travaux éventuels d'amélioration de la performance énergétique ou bien de changement des modes d'utilisation de l'immeuble pour qu'il soit plus vertueux, nous intégrons ces éléments dans nos business plans, comme on dit en bon français, et cela nous permet de pouvoir à la fois travailler sur une performance financière attendue par nos investisseurs et sur une performance environnementale qui concourra demain à la performance financière. Ces éléments de performance environnementale aujourd'hui commencent à être intégrés dans la valeur des immeubles. Le marché est beaucoup plus demandeur d'actifs vertueux que d'actifs non vertueux. Les écarts de valeur ne sont pas encore aujourd'hui très facilement évalués. Mais demain, il est clair que dans les évaluations, dans les expertises que seront faites des actifs immobiliers, ces éléments auront une part importante. Donc oui, assurer une performance financière tout en assurant une performance environnementale, c'est essentiel pour les utilisateurs, c'est essentiel pour les investisseurs aujourd'hui et c'est essentiel pour la création de valeur de nos actifs dans la durée.
Oui, les deux sont tout à fait donc possibles d'après vos propos. Écoutez, Gilles, je vous remercie beaucoup pour votre éclairage du caractère durable de l'élaboration d'une stratégie de gestion d'un parc immobilier tertiaire qui montre que cette activité est en quelque sorte en cours de mutation.
Merci Benjamin.
Merci beaucoup.
Merci à vous. Nous recevons maintenant notre deuxième invité, qui est Sébastien Ilouz, pour avoir son point de vue. Alors Sébastien, bonjour et bienvenue.
Bonjour, merci.
Vous êtes donc ingénieur de formation et mobilisé par les enjeux énergétiques et environnementaux. Vous démarrez votre carrière comme consultant en stratégie patrimoniale et développement durable chez ICAD. Constatant que l'innovation passe par de nouvelles approches de financement, vous rejoignez en 2012 l'établissement public Caisse des dépôts. Vous êtes actuellement responsable d'investissement au département transition énergétique et écologique de la Banque des Territoires. Et vous conduisez à ce titre des projets d'efficacité énergétique dans le cadre de programmes territoriaux. Également, vous intervenez sur les sujets de financement de l'immobilier durable en tant qu'intervenant au master spécialisé immobilier et bâtiment durable de l'École des Ponts. Et vous avez également contribué à la rédaction de l'ouvrage « Immobilier et bâtiment durable, réussir la transition carbone et numérique » aux éditions Erol, co-dirigé avec Dominique Naert, le directeur du master. Alors, Sébastien, une question nous intéresse et intéresse sûrement nos auditeurs. En quoi consiste votre activité et quel en est le lien avec le développement durable ?
Oui, merci de me donner la parole à ce sujet. Je pense que pour bien expliquer ce que je fais, je vais commencer par un petit peu expliquer ou rappeler aux auditeurs ce qu'est la Caisse des dépôts et ce que fait la Caisse des dépôts. Je pense que c'est assez important parce que les gens n'ont pas forcément une vision très très complète de ce que peut faire la Caisse des dépôts en tant qu'établissement public et le groupe. Et comme ça évolue quand même assez rapidement, c'est bien aussi de revenir sur ce sujet-là et c'est directement lié à la question. Donc, la Caisse des dépôts, c'est avant tout un établissement public qui a quelques années, puisqu'il a été créé en 1816, qui est constitué aussi de filiales et de participations et qui a cinq métiers. Qui sont plus ou moins connus, mais que je vais quand même rappeler. On a la gestion des retraites, la gestion des actifs, les filiales et les participations, la BPI, la Banque d'investissement, et la Banque des Territoires, auxquelles j'appartiens et auxquelles j'interviens dans le cadre du département transition énergétique et écologique, justement. Donc, si on fait un petit peu la poupée russe, la Banque des Territoires, c'est pas une filiale de la Caisse. En fait, c'est une direction qui a comme credo conseiller, financer et opérer des services aux collectivités. C'est pour marquer l'ensemble des forces de la Caisse tournées vers les territoires. Et c'est notamment pour préparer aux grands défis de demain qu'on a transformé une partie de la direction de la Caisse des dépôts en Banque des Territoires. Donc c'est pour avoir des territoires plus inclusifs, des territoires plus connectés, des territoires plus attractifs. Bon, tout ça, ce sont des défis extrêmement importants. Et aussi des territoires plus durables, notamment sur les questions d'énergie, d'environnement et de biodiversité. Donc, où est-ce qu'on agit sur ces sujets-là ? On va agir sur la production d'énergie renouvelable de manière assez massive et importante, donc pour préparer le mix énergétique de demain. On intervient sur des questions d'environnement et de valorisation des ressources. Donc, on va trouver des investissements dans des réseaux de chaleur, les infrastructures de distribution d'eau, l'eau qui est aussi un grand défi pour demain, la gestion des déchets, la biodiversité. Et puis, une troisième activité là auquel je consacre moi mon énergie, pour le coup, c'est l'efficacité énergétique des bâtiments, et notamment la rénovation des bâtiments publics. Donc, pour vous dire le portefeuille sur la partie T2E, parce que notre métier, c'est d'investir, c'est 1,2 milliard d'euros, et on a plus de 2 000 actifs. On est sur quand même une réalisation qui est quand même assez massive. Et on a démarré, en fait, depuis pas si longtemps que ça, vraiment la mission d'intervenir sur la rénovation des bâtiments publics. Ça a été d'ailleurs précisément le jour même de la création de la Banque des Territoires qu'on a signé en mai 2018 le grand plan d'investissement sur la rénovation de ces bâtiments, avec 2 milliards d'euros de prêts, 500 millions d'euros de fonds propres. Bon, ça, c'est des grands chiffres, mais donc concrètement, ça veut dire que notre travail, c'est d'accompagner les collectivités dans la rénovation énergétique, mais pas que. On verra par la suite pourquoi, de leur parc. Donc, quand on dit ça, pour donner un ordre de grandeur, on parle de 280 millions de mètres carrés. Ça, c'est le parc des collectivités territoriales, qui est d'ailleurs le parc public le plus important, hein, l'État n'ayant qu'à peu près 100 millions de mètres carrés. Et donc, c'est ce parc-là qui a été majoritairement construit avant les années 70, qu'il s'agit de moderniser, de rendre plus sobre, mais aussi de transformer en profondeur, puisque un parc comme ça, c'est un parc qui doit aussi évoluer sur ses usages. On n'est pas du tout dans la, on vit pas du tout les services publics comme on les vivait dans les années 70 ou dans les années 80. Donc, pour accompagner tout ça, on a un parcours de rénovation, parce que c'est extrêmement compliqué en réalité de faire une transformation d'un parc à l'échelle d'un patrimoine. C'est déjà très compliqué pour des foncières publiques, pour des acteurs privés. Ça l'est tout autant pour des collectivités qui ont un peu, je dirais, perdu l'habitude d'intervenir sur leur parc. L'ingénierie territoriale, c'est quand même beaucoup dégradé depuis voilà, une trentaine d'années, ça c'est pas un scoop. Et donc du coup, il y a cette nécessité de pouvoir les accompagner et de remettre la logique de travailler sur leur propre parc et pas uniquement de subir ce parc. Mmh. C'est déjà un changement intellectuel avant tout.
D'accord, très bien. Alors vous disiez que justement cette mission de rénovation énergétique des bâtiments publics est récente, elle a commencé en mai 2018. Quelles sont les éventuelles difficultés que vous rencontrez dans le développement de votre activité et quelles sont les pistes ou les solutions que vous mettez en œuvre pour les surmonter ?
Alors c'est vrai que moi qui viens aussi plutôt d'une culture investisseur, notamment sur les infrastructures, et donc plutôt des montants relativement massifs. Hein. C'est-à-dire quand on finance une ligne à grande vitesse, quand on finance la fibre au débit, on est tout de suite sur des grosses opérations. Et là, c'est pas du tout ça. Là, on adresse des milliers de communes, des départements, des régions, des intercommunalités. Le parc, ce qui caractérise beaucoup le parc public, c'est quand même que c'est un parc très diffus. Hein. La taille moyenne d'un bâtiment public, c'est un petit peu moins de 1000 m². Et donc, ça fait autant d'opérations à traiter. Et donc, ça, c'est déjà une première difficulté, puisque, alors, je ne vais pas dire que chaque bâtiment est un projet en soi, mais quasiment. Et donc, le premier challenge, c'est, comme je disais, de pouvoir permettre à une ingénierie de qualité de pouvoir contribuer tout d'abord aux réflexions sur la rénovation du parc et ensuite d'agir vraiment sur ce parc. Et donc pour ça, on s'appuie beaucoup sur de plus en plus d'ailleurs sur les 12 outils digitaux qui permettent de remplir une partie des missions d'ingénierie pour pouvoir comparer les consommations de son bâtiment avec celui du bâtiment voisin de la ville d'à côté ou du parc de l'ensemble de la ville ou de l'ensemble des écoles aux moyennes du parc français. Donc, on a un certain nombre d'outils comme ça qu'on peut décliner qui, déjà, donnent une certaine prise de conscience d'abord aux élus et ensuite servent d'outils pratiques pour les services techniques pour pouvoir ensuite définir leurs objectifs. On déroule aussi des programmes territoriaux comme le programme Action Cœur de Ville sur lequel on a focalisé précisément un point d'attention, notamment sur la rénovation des écoles, avec le programme 1000 écoles au sein d'Action Cœur de Ville, là, qui consiste à booster encore plus notre aide et à mettre en place des crédits d'ingénierie. Donc, ce sont des subventions pour pouvoir accompagner la réflexion des collectivités en s'entourant de bureaux d'études. Voilà. Donc, il y a un aspect très technique dans ces difficultés, mais je pense que une des principales difficultés, mais qui est aussi une des principales solutions, c'est de faire changer l'état d'esprit et le regard que porte une ville ou une collectivité en règle générale sur son patrimoine. C'est-à-dire que pour une ville, contrairement à ce qu'on a plus dans le privé, un bâtiment, c'est avant tout un centre de coût. Ce n'est pas un centre de profit comme on peut avoir sur une foncière où on a cette logique économique avec un loyer. Et donc, une des premières approches, c'est de dire que ce centre de coût, ça peut être aussi un centre d'économie si on arrive à bien optimiser la gestion de ce parc et qu'on peut tout à fait combiner amélioration de la qualité d'usage, amélioration des services et maîtrise des coûts. Notamment en travaillant de manière importante sur la maîtrise de l'exploitation maintenance, de pouvoir avoir une vraie approche en coût global lorsqu'on fait des choix. Et donc, tout ça, ça procède d'abord d'une certaine philosophie, mais qu'on essaye de mettre en pratique, nous, très concrètement, notamment avec un dispositif qu'on appelle l'intracting, qui permet de mettre en place un cercle vertueux. En gros, pour faire simple, on propose aux collectivités de financer toutes leurs actions d'efficacité énergétique dont le temps de retour est inférieur à 13 ans. Voilà.
D'accord.
Et ça, je dirais, quelle que soit l'enveloppe, et ça permet du coup de faire un quick win et de rapidement pouvoir définir des actions, les réaliser, constater que les économies d'énergie sont là et pouvoir remuscler leurs services techniques, pouvoir justifier l'embauche, par exemple, d'économes de flux, de conseillers en énergie qui vont pouvoir venir renforcer les services et petit à petit pouvoir aller vers des choses plus complexes comme des rénovations plus lourdes, la mise en place de contrats de performance énergétique. Et donc, on essaye d'imaginer tout un panel d'offres comme ça qui monte crescendo sur la complexité pour pouvoir les aider à se réapproprier la performance de leur parc.
D'accord. Vous touchez du doigt la question que je souhaitais vous poser pour terminer. Vous avez des outils digitaux, la notion de centre de coût qui passe en centre d'économie, voire une démarche en coût global. Quelles sont les perspectives de votre métier demain ? Comment le voyez-vous s'enrichir par rapport à ce que vous observez depuis 4 ans ?
Moi, je pense qu'indéniablement, le numérique a de grands services à rendre sur le sujet de la gestion patrimoniale, en règle générale, mais aussi de la gestion patrimoniale publique, qui est un petit peu plus complexe parce qu'on n'est pas à nouveau dans une logique d'un bailleur, d'un preneur et d'une relation contractuelle. On est avec une population qu'on accueille dans des écoles, dans des gymnases, dans des piscines. Et donc, la relation n'est pas contractuelle. C'est une relation de citoyen à sa commune, de citoyen à sa région, à son département, à son collège, à son lycée. Et donc, il faut bien trouver les moyens de pouvoir créer une communication entre ces différents acteurs. Donc là, le numérique peut apporter beaucoup de solutions pour permettre d'échanger. Et puis, sur l'humain aussi, parce que j'aime bien aussi revenir à l'humain, je pense que une des solutions va être d'arriver à vraiment professionnaliser la maîtrise d'ouvrage public ou la reprofessionnaliser, parce qu'elle a été un moment très performante, notamment sur toute la période de construction neuve, et il faut qu'elle le soit à nouveau, non pas sur une feuille blanche qu'est la construction neuve, mais dans sa gestion au quotidien et dans sa reconstruction de la ville sur la ville. Et ça, c'est passionnant de voir déjà les premières évolutions et de voir à quel point les collectivités qui, de manière volontaire, avant même le décret tertiaire, avant ces obligations-là, se sont déjà engagées un peu en pionnier, les voir déjà obtenir leur première réussite. Et on voit là qu'on est sur la bonne voie.
Tant mieux. Eh bien, c'est encourageant. Merci beaucoup, Sébastien, pour votre éclairage. On perçoit bien à la fois les similitudes et les complémentarités entre votre activité et celle de Gilles Chamignon. Merci.
Merci, Frédéric. Pour poursuivre notre émission, nous recevons à présent Laurent Masson, diplômé du master en 2015. Alors, Laurent, en substance, est-ce que vous pouvez nous préciser ce que le master vous a apporté dans l'exercice de votre métier, peut-être à l'époque, en 2015, et peut-être aussi également à aujourd'hui, puisqu'il s'est passé 7 ans depuis l'obtention de votre master ?
Oui, eh bien, bonjour à tous. Oui, c'est vrai, ça fait déjà 7 ans. Donc, à l'époque, j'étais venu, donc fin 2015, avec l'idée de changer de métier, puisque moi, j'intervenais dans le domaine de l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour le compte du logement social. Et j'étais arrivé au bout en me disant que j'avais fait le tour et qu'il fallait que je trouve un nouveau métier. Et bien finalement, un an après, donc à la fin du master, je me suis rendu compte qu'il y avait nécessité, en fait, à l'époque, alors c'est plus le cas aujourd'hui puisqu'il y a un certain nombre de textes qui sont apparus, je me suis rendu compte qu'il y avait nécessité de développer au contraire le métier de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Et notamment dans le secteur privé, puisqu'à l'époque, on parlait essentiellement du secteur public, mais très très peu du secteur privé. Voilà. Et à travers le master, j'ai abordé le volet énergétique des bâtiments, que je ne maîtrisais pas moi du tout. Et la mécanique du master fait qu'on a une vision transversale des composantes d'un bâtiment, à savoir la partie juridique, technique, financière et sociale. Et donc on a une espèce de vision relativement large de toutes ces composantes. Et un souvenir m'est revenu, là, il y a une semaine, alors pas une semaine qui s'intitule « Comportement et usage », à laquelle j'avais porté peu d'attention, je vous l'avoue à l'époque, en me disant « mais à quoi ça sert ça ?» Et depuis, évidemment, j'ai complètement intégré à quoi servait cette semaine, parce que depuis, j'interviens donc sur le domaine privé dans l'accompagnement des copropriétés, et on mesure la difficulté ou les contraintes qui naissent après une rénovation énergétique et qui font que les usagers, que ce soit des propriétaires ou locataires, ont une difficulté à modifier leur comportement. Voilà. Et si je résume un peu l'apport du master, eh bien, ça m'a permis de me réorienter vers le secteur de l'immobilier privé et, on va dire, de me passionner pour l'accompagnement des copropriétés, que je connaissais évidemment pas du tout, et notamment dans le cadre de la rénovation énergétique globale.
D'accord.
Et donc depuis, en 7 ans, eh bien, j'ai créé une société avec deux associés qui s'appelle Proge, et on a développé donc une plateforme numérique d'assistance à maîtrise d'ouvrage à destination de tous les acteurs de la rénovation énergétique, que ce soit des bureaux d'études thermiques, architectes, donc les AMO et les syndics de gestion, afin de faciliter l'accompagnement des projets de rénovation énergétique en copropriété.
D'accord.
Voilà à peu près, j'allais dire, le parcours depuis 7 ans qui a fait que je suis aujourd'hui encore et toujours en activité dans le domaine de la rénovation. Voilà.
Laurent, merci.
Oui.
Pouvez-vous nous préciser le sujet de la thèse que vous avez portée ainsi que les raisons du choix de votre sujet ?
Alors, la thèse portait pas sur la copropriété, bizarrement. Ma thèse avait pour titre « La rénovation énergétique globale d'une maison individuelle en région PACA », avec une forte focale sur le confort d'été associé à une ventilation adaptée. C'était des sujets qui étaient peu traités à l'époque dans le cadre de la rénovation et qui sont aujourd'hui devenus relativement prégnants. Et pourquoi ce choix ? Eh bien, tout simplement parce que j'habitais une maison à peu près bioclimatique faite par un ingénieur qui l'avait conçue avant que je l'acquière. Et donc, ça m'avait absolument fasciné de comprendre la mécanique, notamment dans notre région relativement chaude, la mécanique physique et la mécanique technique de cette maison. Et donc, ça, j'ai fait le lien entre cette maison et l'apport que j'ai vu par le master.
Très bien. Voilà. Bon, écoutez, merci beaucoup Laurent pour votre témoignage. Merci également Gilles et Sébastien pour vos apports qui ont considérablement enrichi notre émission. Je vous rappelle que nous vous retrouverons cette semaine au Master Immobilier Bâtiment Durable pour approfondir bien sûr ces thèmes passionnants. Nous rappelons à nos auditeurs la parution de l'excellent livre Immobilier et Bâtiment Durable, réussir la transition carbone et numérique aux éditions Erol. C'est un ouvrage écrit en collaboration avec le master du même nom et qui reprend son programme. Vous trouverez également toutes les informations de notre master sur le site de l'École des Ponts, écoledesponts.fr.
Et le mois prochain, nous répondrons à la question « Management de projet et environnement numérique, quels sont les défis ?» Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.
Immobilier, bâtiment durable avec l'École des Ponts, une émission à réécouter et télécharger sur Bâti Radio et sur toutes les plateformes de streaming.